RMC. Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, une belle compilation des meilleurs moments de Lahaye, l'amour et vous. On reviendra sur les questions de jalousie. Et avec Jean-Michel Gourlian, vous saurez pourquoi certains sont plus jaloux que d'autres. Nous écouterons également Cécile qui nous avait expliqué comment elle était devenue vaginale. Mais tout de suite, nous écoutons ce que Jean-Michel Gourlian m'avait répondu lorsque je lui demandais pourquoi nous étions jaloux.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaye.
Je suis très jaloux de l'ex de ma femme. Comment expliquer cela ? Jaloux d'un ex ou d'une ex, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive plus souvent qu'on ne pourrait le croire, parce qu'a priori, on pourrait se dire, bon, ben, c'est fini avec son ex, pourquoi en être jaloux ?
Moi, je crois que ça arrive pratiquement de manière systématique et fatalement. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que la jalousie ? La jalousie, c'est l'exacerbation de la rivalité à l'égard d'un rival. Or, un rival actuel qu'on peut éliminer, c'est déjà difficile à supporter. Mais un rival passé, contre lequel on ne peut plus rien, parce que soit il a disparu, soit il est parti, mais il reste dans l'esprit de la femme avec laquelle on se trouve. C'est une rivalité impossible à surmonter et donc par conséquent insupportable. Et ça devient une obsession. Ça devient une obsession, c'est-à-dire qu'on se dit tout le temps, oui, mais... Et alors, ça donne lieu, et ça, j'ai vu ça dans ma pratique
médicale, à des questionnaires.
À des questionnaires infinis. Oui, mais est-ce qu'avec lui, c'était mieux, moins bien, plus, pas, machin.
Et son sexe, comment il était.
Oui, c'est ça.
Et on se fait du mal.
Et vous étiez à l'hôtel, ou dans l'ascenseur, ou je sais pas où. Alors, et puis ça peut être comme ça, sans fin. Et souvent, ça finit par, par presque détruire la relation.
Mais oui, puisque l'ex est toujours présent. Alors, comment on fait ? On se raisonne un peu ?
Alors, il faut essayer de se faire aider, d'essayer de comprendre justement comment fonctionne la rivalité. Et ça peut aller d'ailleurs très loin, parce que il y a d'autres pathologies ou d'autres formes pour lesquelles la rivalité se porte sur tous les rivaux possibles et imaginables dans l'avenir. Et à ce moment-là, ça devient invivable. Mmh. Parce que dès que la femme, par exemple, si c'est le cas d'un homme qui est jaloux, dès que la femme s'absente pour aller faire une course, il s'imagine qu'elle peut à tout moment rencontrer au supermarché un homme. Et à ce moment-là, il est tout le temps malade, il est tout le temps pas bien. Et par conséquent, ça lui pourrit la vie.
D'accord, mais alors la solution, se faire aider, d'accord, mais on n'est pas tous obligés de se faire aider. On est quand même capable aussi d'être un peu adulte, non ?
Oui, il faut essayer. Puis alors surtout, la femme doit, à mon avis, surtout refuser de s'engager dans l'évocation des souvenirs de plus en plus précis et répondre aux questions.
L'intelligence, c'est d'éviter de parler de son ex à son partenaire
de son ex,
et puis d'éviter de questionner,
voilà.
Bien sûr. Et vivre ce qu'on est en train de vivre.
C'est ça, se concentrer sur le moment présent et peut-être un peu sur l'avenir, mais certainement
pas. Ce
qu'on
est en train de construire ensemble.
Voilà.
Stéphanie est avec nous. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité.
Bonjour.
Alors vous avez 40 ans et on va parler fantasme aussi avec vous. C'est quelque chose que vous partagez, vous, avec votre partenaire.
Oui, complètement. Mais juste avant ça, Brigitte, je voudrais juste vous dire que vous m'accompagnez en fait dans ma vie depuis quelques années. Je vous ai écouté sur les conseils de mon médecin.
Ah.
Oui, c'est mon médecin généraliste qui est une femme.
Donc il y a des bons médecins alors.
Mais carrément. Me concernant, vous m'accompagnez dans mon cheminement par rapport à ma féminité, on va dire, et du coup par rapport à l'homme, parce que j'avais énormément besoin d'avancer. Aujourd'hui, je vis une jolie histoire, pas simple, mais néanmoins très jolie. Et ensemble, on est sur réaliser nos fantasmes. Alors, c'est pas venu du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on parle énormément, et puis les choses nous arrivent, voilà. Et en fait, bah là, on va vers les réaliser. Alors, vous allez me demander lesquels.
Oh, je n'oserais pas, Stéphanie.
Ben, alors après, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est vrai que ça a commencé par l'idée de partager des moments intimes, donc avec une autre femme, et puis éventuellement avec un autre homme. Donc, voilà, là, ça va... alors, il y a toute une démarche, hein, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est les heures de conversation qu'on a autour de ça, en fait.
J'aime bien ce que vous venez de dire, parce que c'est ça qui est, au fond, intéressant. C'est le fantasme du fantasme, quoi.
Exactement. Exactement. Et c'est pas, ça passera assez furtivement. Ce sera quelques heures, quelques nuits. Enfin voilà. Mais en amont, il y aura eu des tas de discussions dans lesquelles il n'est pas que question de ce qui va se faire, mais il est aussi question de nous, de nos vies, de notre intime, de voilà. Donc à la fois, ça nous séduit, ça nous excite, mais ça nous rapproche aussi énormément. La condition essentielle, c'est le partage. Je crois que si ça se passe, on peut avoir des fantasmes seuls dans son coin, il n'y a pas de souci. Mais quelle chance, effectivement, que de pouvoir les mettre en commun avec avec l'homme ou la femme qu'on aime, quoi.
Oui, mais je pense que la différence, Stéphanie, chez vous, c'est qu'a priori, vous êtes deux adultes qui savent être à l'écoute de l'autre et dans le respect de l'autre, et donc on peut communiquer sur ses désirs, ses fantasmes, sans que ça pose problème. Il y en a pas un qui essaye d'imposer à l'autre.
Non, pas du tout.
Et vous n'êtes pas, et vous comprenez aussi que un fantasme, c'est pas forcément quelque chose qu'on veut absolument faire, donc vous n'êtes pas choqué, quoi.
Absolument. Non, mais je crois que là, vous avez réussi à trouver un équilibre, et c'est très bien, c'est très très bien. Et je crois que Brigitte, tout à l'heure, évidemment, a mis la main sur l'essentiel, à savoir que vous en parlez plus que vous n'en faites.
Oui.
Et je crois que c'est, au fond, ça vous aide à alimenter le dialogue, à agrémenter la relation. Et puis, en définitive, ce sont des petits épisodes qui ne servent qu'à pimenter un petit peu le quotidien. Et donc ça va. Et ouais. Parce que justement, ça ne s'accroche pas en quelque sorte.
Non, et puis il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'impératif. Ça se fera ou ça ne se fera pas. En tous les cas, déjà rien que le plaisir qu'on a à l'évoquer, c'est déjà un grand, un grand moment de bonheur à deux, quoi.
Bah oui, vous partagez quelque chose sans enjeu qui puisse être.
Voilà, vous êtes complice en fait.
Oui.
Et cette complicité renforce votre couple au lieu de le déchirer, comme ça pourrait y arriver dans certains autres cas où le fantasme ne serait pas maîtrisé.
Oui.
Donc, il y a de l'intelligence sexuelle, là.
Osons
le mot.
De l'intelligence émotionnelle, dont nous parlerons bientôt.
Oui, bien sûr. Mais là, on pourrait parler d'intelligence sexuelle aussi. Ce serait encore une belle définition à donner, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence sexuelle? Et puis, Stéphanie, je voudrais juste te dire, vous m'avez dit que c'est une histoire pas simple. Vous savez, les belles histoires, elles sont jamais simples.
Oui. C'est bien, mais oui. Mais voilà, on est... En tous les cas, moi, j'ai avancé, je continue d'avancer sur, justement, trouver une certaine sérénité déjà avec moi-même. Et du coup, forcément, l'autre en bénéficie, forcément. Et du coup, la relation, peut être vraiment plaisante, quoi. Mais on a tout à gagner à pouvoir s'ouvrir et à pouvoir parler de soi. Et du coup, de parler de soi à l'autre.
Merci Stéphanie.
Merci à vous. Au revoir.
Bonjour Carole.
Bonjour, bonjour Brigitte et bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Vous avez 43 ans et vous avez un problème avec votre mari.
Oui, tout à fait. Je sortais d'un échec et puis j'ai rencontré mon mari. Je me suis dit, tiens, à 42 ans, parce que j'avais 42, j'ai rencontré enfin un homme qui avait des attentions pour moi. Tout allait très bien. On s'est mariés, on a fait un beau bébé. Et puis, entre-temps, j'ai perdu mon papa. Et on est parti, suite à un changement professionnel, on est parti habiter sur Ajaccio. Mmh. Je suis du Var. Et c'est là qu'en fait, beaucoup de choses se sont passées. C'est que j'ai accepté pour que mon mari ait son poste, un poste qu'il a jamais eu dans sa vie, j'ai accepté de le suivre.
Sûr, oui. Mmh.
Et je sais pas ce qui s'est passé. Je suis arrivée à Ajaccio enceinte. Et je me suis retrouvée sur un endroit qui est magnifique, hein, certes. Mais on s'est beaucoup disputé parce que j'étais beaucoup déprimée. Et au jour d'aujourd'hui, je ne me fais toujours pas à la vie que j'ai à Ajaccio. Moi qui étais pleine de vie, pétillante, avec beaucoup de joie, entourée de gens que j'aimais, etc.
Oui, il y a un dépaysement, comme on dit, qui est important. Ouais. Et en plus, voilà. Vous avez l'impression que votre mari n'a pas été présent. Je crois, Carole, quand même, ce qui serait important, c'est de faire le vrai bilan de tout ce qui s'est passé dans votre vie et de ne pas mettre le simplement ça sur le fait que vous n'êtes plus dans la même région, parce qu'il y a quand même eu la mort de votre père, vous étiez enceinte, il y a eu beaucoup d'événements qui peut peut-être s'entrechoquent et on ne sait plus très bien qu'est-ce qui a provoqué ce mal-être.
Vous avez accouché il y a combien de temps, Carole ?
Ah ben écoutez, mon petit garçon, il a 4 mois,
C'est ça. À mon avis, vous faites une dépression puerpérale, c'est-à-dire une dépression postpartum, une dépression après l'accouchement.
Ouais.
Et cette dépression-là, ça se soigne très bien. Et ouais. Il ne faut pas penser que cette dépression est due à des facteurs, on appelle ça exogènes, ouais. C'est-à-dire extérieurs, c'est-à-dire à Ajaccio, à la Corse ou au travail de votre mari. C'est peut-être tout simplement dû à un petit déséquilibre hormonal qui arrive extrêmement fréquemment après l'accouchement et qu'on peut corriger, et à ce moment-là, tout redeviendra rose.
Oui, je crois que là, il faut peut-être faire un petit
et
bilan.
Et aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avec la naissance de notre enfant, au lieu de nous unir, ça nous a beaucoup de fois, là, je lui parle énormément à mon mari, pour le réveiller. Il a toujours des attentions, il m'aide pour le petit, pour que je me repose, etc. Mais il a plus les attentions qu'il avait quand il arrive, le regard pétillant ou de me prendre dans ses bras.
Mais c'est compliqué, vous savez, Carole, quand un homme est face à une femme un peu dépressive, hein, osons le mot, il est lui aussi un peu dépressif au fond, en quelque sorte. Et le regard pétillant, on l'a quand on n'est pas dépressif. Enfin, je schématise encore une fois, c'est pas aussi simple. Mais je crois qu'il faut prendre d'abord soin de vous et puis ensuite soin de la relation. Mais une chose à la fois, on peut pas tout mener de front, quoi, en quelque sorte.
Non, il faut absolument que vous consultiez un médecin et peut-être même un psychiatre, les deux, enfin un endocrinologue et un psychiatre, d'une part, enfin, ou votre gynécologue et un psychiatre. Et puis ensuite, je pense qu'il faut quand même prendre en compte, avec un psychiatre ou un psychothérapeute, le fait que quand on habite à trois, c'est pas pareil que quand on habite à deux, et que l'enfant prend une énorme place.
Ah, ça, je suis d'accord avec vous.
Et que cet enfant prend une énorme place, que nous sommes ravis de l'avoir, vous êtes ravis de l'avoir, mais n'empêche que ça bouleverse complètement le rapport de couple.
Ah oui, même la libido, elle a énormément chuté. Moi non, elle a pas baissé de mon côté, mais mon mari, il a plus l'envie qu'il avait avant, pas du tout.
Bah d'abord parce que vous êtes déprimé, ensuite parce qu'il y a l'enfant qui gueule, et puis ensuite parce que effectivement ça remet tout l'équilibre en cause. Il faut que tout ça soit repris petit à petit, et je crois que vous auriez intérêt à vous faire aider.
D'autant que la mort d'un père, c'est pas anodin non plus. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses dans votre vie qui...
J'ai perdu la veille de mon mariage, hein, mon papa. Hein.
Bah oui, donc voyez, tout ça... Puis vous êtes à un âge clé aussi, autour de la quarantaine, on voit la vie de manière différente. Enfin, moi je pense qu'il faut pas vous inquiéter plus que ça, mais il faut vous prendre en main.
Le souci, c'est que je me fais pas du tout à la vie ici, alors après, je peux très bien revenir dans le Var et reconstruire quelque chose avec mon mari, hein.
Peut-être, mais ça, il sera toujours.
Ne croyez pas quand c'est en changeant de lieu que ça va régler le problème. Ne croyez pas ça. Ce n'est pas dû au lieu, ce n'est pas dû aux facteurs extérieurs. Arrangez-vous d'abord vous, puis le couple, et puis ensuite on verra si vous allez dans le Var, en Corse ou ailleurs.
Surtout qu'on peut pas dire qu'il y a une grande différence entre le Var et la Corse. Hein. On parle français, il y a du soleil dans les deux régions. C'est peut-être plus ce qui va pas très bien chez vous. Et dans ces cas-là, c'est bien connu. Hein. On a toujours tendance à projeter à l'extérieur ce qui ne va pas bien chez nous, parce que c'est plus c'est un mécanisme humain qui est fréquent. Hein. Donc moi, je crois que vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous et de mettre toutes les choses à la bonne place.
Et puis même pour le côté sexuel, mon mari, il trouve toujours l'excuse de la fatigue. Bon, c'est pas un grimpeur fou, hein. C'est pas un grimpeur fou, hein. Il a toujours eu moins d'envie que moi. Moi, je suis quelqu'un que, deux fois par semaine, ça me suffirait amplement. J'ai pas perdu mes envies, au contraire, ni l'amour que j'ai pour mon mari. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il me trouvera toujours le souci de la fatigue, du travail, les voyages pour aller chercher notre fils le soir. Il trouvera toujours des excuses.
Alors, ça, il faut voir si c'est vraiment des excuses. Et la meilleure manière de voir si c'est des excuses, c'est de s'organiser dans son emploi du temps pour trouver quand même des moments où on va ensemble être dans vraiment un moment d'intimité. Donc c'est une question de régler son emploi du temps un peu différemment. Il y a des choses qui peuvent passer à la trappe. L'intimité du couple ne doit pas passer à la trappe. Donc voyez comment vous pouvez enlever deux, trois choses dans son emploi du temps pour qu'il soit un peu moins fatigué et que vous vous retrouviez dans dans l'intimité, sans forcément avoir un acte sexuel immédiat, mais au moins être ensemble tous les deux dans une relation de couple. Voilà.
Et puis alors, je me permets d'ajouter un mot, simplement, si vous voulez, tous les patients que j'ai vus pensaient toujours que ce serait mieux ailleurs, que c'est en déménageant ou en allant ailleurs ou en s'installant ailleurs ou en changeant de travail ou en changeant de métier ou en changeant d'entreprise ou changeant de femme, que ça irait mieux. Mais en fait, c'est pas qu'ils sont mal là où ils sont, c'est qu'ils sont mal dans leur peau.
Exactement.
Et leur peau, ils vont la transporter avec eux partout où ils vont aller. Par conséquent, ça n'ira pas mieux dans le Var ou ailleurs. L'essentiel, c'est d'être bien d'abord dans sa peau, puis ensuite on choisit librement l'endroit où on veut vivre.
Merci Carole, en tout cas.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaye.
Cécile, bonjour.
Bonjour.
Vous avez donc toujours cru que vous étiez clitoridienne. Enfin, c'était le cas d'ailleurs, sans doute. Hein. Vos orgasmes venaient de cette stimulation.
Oui, tout à fait. Et en fait, j'ai 43 ans aujourd'hui, donc pendant plus de 20 ans, je pensais être uniquement clitoridienne. Et il y a peu de temps, j'en ai parlé à mon gynéco, parce que je pensais avoir recours à une vaginoplastie. Comme j'ai eu 3 enfants avec des forceps et épisiotomie, je pensais que ça pouvait aussi jouer là-dessus. Donc en fait, il m'a expliqué que plus de 85% des femmes étaient clitoridiennes. Et qu'en fait, si elles avaient un orgasme vaginal, c'est surtout parce que le clitoris s'était stimulé avant ou pendant la pénétration.
C'est vrai, okay.
Il m'a un peu rassurée. Et puis j'en ai parlé à une amie qui m'a donné une astuce technique pour parvenir à l'orgasme vaginal. Et ça a marché. Donc depuis, j'ai vraiment l'impression d'avoir une deuxième vie. Et là, faut dire ce qu'il y a, la pénétration, elle est plus vécue de façon un peu difficile pour moi jusqu'à maintenant.
Parce qu'elle était vécue de façon difficile.
Ouais.
Oui.
Ouais. Alors, ouais. Et je pense que on dit peut-être pas tout à fait la vérité, mais une femme qui lors de la pénétration n'a pas d'organe, je pense que à mon avis, elle veut que ça se termine vite parce que s'il n'y a pas de plaisir.
Oui, mais attention, encore une fois, faisons attention de ne pas, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que on peut avoir de la jouissance, des orgasmes lorsqu'on fait l'amour avec son homme lors du coït. Et puis, on peut avoir beaucoup de plaisir, on peut avoir un peu de plaisir, on peut être contente de donner du plaisir. Et puis, on peut, en effet, être totalement indifférente ou voire même avoir mal. Vous voyez, donc il y a vraiment énormément de nuances. Donc, je crois qu'il faut vraiment faire attention parce que les seules femmes qui, en effet, ont envie que ça se termine vite, c'est celles qui s'ennuient ou celles qui ont mal. Les autres, a priori, elles peuvent y trouver du bon temps, si je puis dire.
Peut-être, oui.
Bon, en tout cas,
ça peut donner un peu d'espoir.
Bon, mais je vais pas vous laisser partir sans que vous nous racontiez qu'est-ce que c'est que cette astuce, parce que sinon je vais avoir une avalanche de mails.
Je vais y passer
la nuit. Hein.
Oui, mais en fait c'est technique. Hein,
moi je suis prête à entendre, Cécile, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui sont prêts à entendre. Alors.
Bon, écoutez, si vous voulez, en fait, elle m'a dit qu'il fallait entièrement prendre les devants, se mettre sur l'homme et agir par moment de va-et-vient en se contractant. Mais en fait, c'est nous qui devons mener le.
D'accord.
Voilà, okay.
En fait, elle vous a rendu active. C'est-à-dire qu'au lieu de subir les va-et-vient du pénis sans vraiment trop chercher à comprendre ce qui se passe, elle vous a conseillé donc de resserrer et relâcher les muscles du vagin en étant dans une position justement active.
C'est ça. Et vraiment de enfin, c'est moi qui suis active et lui est inactif. Ça a pris un petit peu de temps la première fois, mais depuis, ça marche à tous les coups.
Ben parce que vous êtes en effet vous avez compris que votre corps vous appartient et que vous pouvez tout à fait provoquer les réactions que vous avez envie de provoquer.
Ouais. Et puis je vous dis, donner un peu d'espoir à celles qui aimeraient bien connaître ça.
Mais je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, même si on reste dans une position comme le missionnaire quand on fait l'amour, si on est un peu plus active, forcément les sensations vont être plus importantes. Parce que il y a évidemment quand on reste totalement passive, il se passe pas grand-chose.
Ouais, Mais j'avais déjà essayé. Forcément, en 20 ans, on teste des choses. Mais j'avais jamais réussi à.
C'était pas le moment, vous savez, quand l'élève est prêt, le maître arrive.
Oui.
C'était le moment où vous pouviez ressentir ce plaisir-là.
Mm-hmm.
Tant mieux, ça donne de belles perspectives pour l'avenir. Hein.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup Cécile, voilà. En tout cas, de votre témoignage. Merci à vous.
Merci.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie. RMC, Lahaie, l'amour et vous, Brigitte Lahaie.
Eh bien, nous parlons possessivité avec vous, Jean-Michel Hougourlian. Vous êtes neuropsychiatre. Alors, pourquoi certains sont plus possessifs que d'autres ?
Alors, écoutez, si vous me permettez, je fais un petit recul en arrière. Vous savez, nous avons dans le cerveau, et ça a été découvert il y a même pas 15 ans, des neurones qui sont ce qu'on appelle des neurones miroirs. C'est en d'autres termes, si je bois un verre d'eau et que vous me regardez boire le verre d'eau, les mêmes zones dans mon cerveau qui pratique l'action et dans votre cerveau qui me regarde s'allument de la même façon. C'est-à-dire que votre cerveau se prête au fond à faire la même chose.
Je vous singe, quoi, en quelque sorte.
Comment ?
Je vous singe, en d'autres termes.
Voilà. Alors la singerie, c'est en quelque sorte la caricature de ce dont je parle,
savoir
le désir mimétique.
Bien sûr.
Et à ce moment-là, ça veut dire qu'au fond, c'est laïque et obligatoire d'être un petit peu jaloux. C'est laïque et obligatoire de désirer ce que l'autre désire.
D'accord. Donc
et
ça,
par conséquent,
on est d'accord.
Il y a là aussitôt dès qu'on aime quelqu'un et qu'on veut être attaché à lui, il y a une peur primordiale, tout ce que vous voulez, légitime, qui fait qu'on a tout le temps peur que les autres convoitent cette même. Alors cette jalousie, vous savez, c'est comme les piments dans un plat à dose faible, ça stimule,
ça soulève, oui, l'appétit,
ça,
oui.
Ça excite les papilles. Si par exemple un homme entre avec une très belle femme dans un restaurant et que tout le monde la regarde, évidemment ça stimule son désir. Il y a une petite pointe de jalousie, mais en même temps une grande pointe de fierté en disant voilà, c'est avec moi qu'elle est, pas avec vous, bande de nœuds, et ça. Mais ça peut aller très loin, c'est-à-dire que si vous en mettez trop, si vous inondez le plat de piment, alors là, ça vous emporte la bouche et ça peut faire des dégâts. Et ça peut aller jusqu'à des tragédies absolues, comme par exemple Othello de Shakespeare, qui est au fond la tragédie de la jalousie et de la possessivité.
C'est ça, il a tellement imaginé que d'autres pouvaient la prendre, qu'il a préféré la tuer pour la garder.
Pour en priver, en quelque sorte, les éventuels rivaux. Voilà.
Et alors, pourquoi certains sont plus possessifs que d'autres ? C'est un manque de confiance en soi ? Vous êtes d'accord avec ce que je dis, c'est toujours
Je suis tout à fait d'accord. C'est une preuve d'immaturité. C'est-à-dire qu'au fond, ce sont des gens qui sont manipulés par des mécanismes dont ils ne maîtrisent pas le principe. Ce sont des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Et le fait, vous savez, c'est
ils sont victimes de leurs émotions, quoi.
Ils sont victimes de leurs émotions et de leurs mécanismes mimétiques qu'ils n'ont absolument aucune idée, à propos desquels ils n'ont aucune idée, parce qu'ils s'imaginent, et c'est une mythologie très fréquente et universelle, que leur désir est à eux, qu'il est original, qu'il leur appartient et qu'il leur a été suggéré par personne, et que s'ils boivent du Nespresso, c'est pas du tout pour imiter George Clooney, c'est parce qu'ils aiment beaucoup le goût du Nespresso.
Eh bien, on a Fred justement qui réagit sur la possessivité. Bonjour Fred.
Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité Jean-Michel.
Bonjour.
Ouais, bonjour, je suis très très heureux de vous avoir au téléphone Brigitte. Et,
merci.
C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Donc c'est vrai que mon histoire avec ma compagne, ça fait 8-9 ans bientôt qu'on est ensemble. Et c'est vrai que de son côté, moi je m'en étais pas aperçu tout de suite les premières années. On était vraiment amoureux. Et puis au fur des années, c'est même pas moi qui m'en suis aperçu. C'est plutôt mon entourage, mes amis, ma famille qui m'en parlaient. Mais oui, t'as vu ta compagne. Mais écoute, elle est comme ça. Elle t'appelle souvent. Elle te call. Elle te dit ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas avec qui? Et je m'en étais pas aperçu de suite. Et c'est vrai que au fur des années, ça s'est accentué et puis ça s'est fini qu'en fait, c'est cet été, on a été obligé de se remettre en question un petit peu, on s'est séparé et puis aujourd'hui c'est une autre histoire entre nous, donc voilà. C'est vrai que c'est toujours un peu difficile.
C'est-à-dire vous êtes revenus ensemble malgré tout ?
Oui, tout à fait, ouais, tout à fait, parce que en fait, bon, moi de mon côté, c'est vrai que je l'ai pas, peut-être que aussi je l'écoutais pas assez. On se remet toujours en question. Je me disais peut-être que c'est moi. Alors donc en fait, on avait pris la décision de passer quelques mois, en fait, chacun de notre côté. Et puis bon, au fur du temps, on s'est posé beaucoup de questions l'un et l'autre. Et puis c'est vrai que maintenant, aujourd'hui,
oui, vous êtes attaché à elle et vous avez eu raison après tout de revivre ensemble. Mais qu'est-ce que peut faire Fred pour aider sa compagne à être justement moins possessive, Jean-Michel Gourlian?
Vous savez, c'est très difficile parce qu'au fond, la possessivité va de pair avec une espèce de besoin de contrôler. C'est visiblement ce que nous dit.
Hein?
C'est contrôler, téléphoner, qu'est-ce que tu fais, où es-tu, que fais-tu, avec qui, etc. Et ce contrôle va de pair avec, au fond, le pouvoir. C'est une façon d'avoir le pouvoir. Si on contrôle quelqu'un, c'est qu'on le domine. Et donc, par conséquent, c'est un désir de pouvoir. Et il faut essayer de faire prendre conscience à la personne que ce goût de pouvoir est absolument naturel, normal, etc. Mais que on ne peut être heureux et on ne peut être finalement ensemble que si on renonce à contrôler l'autre par le pouvoir, et que si on renonce à avoir du pouvoir et si on a simplement un attachement, et que par conséquent on a confiance en soi et en l'autre, et là à ce moment-là on peut arriver à une relation qui ne passe pas par le pouvoir, parce que toute relation qui passe par le pouvoir entraîne une révolte.
Oui, tout à fait, oui. Et puis en fait je me suis révolté en même temps, c'est ça.
Voilà.
C'est tout à fait ça, et c'est vrai que d'un autre côté, elle me posait souvent la question, mais pourquoi toi t'es pas jaloux? Pourquoi je suis pas jaloux? Parce que j'ai confiance en toi.
Ouais, mais on voit rarement deux jaloux ensemble, hein, Jean-Michel Gourlian.
Oui, il y en a toujours un qui est plus jaloux que l'autre, il y en a toujours un qui a plus de pouvoir que l'autre. Au fond, c'est de fait de savoir qui a envie de prendre le pouvoir. Il y a des gens qui n'ont pas le goût du pouvoir, et il y en a d'autres qui feraient n'importe quoi pour prendre le pouvoir. Nous en avons des exemples quotidiennement.
Je vous coupe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est, elle est devenue un petit peu moi aujourd'hui, et moi je suis devenu un petit peu elle, quoi. En fait, on a
Oui, alors vous savez que une des grandes caractéristiques du pouvoir, c'est de se balancer. Lorsqu'elle vous contrôle moins, lorsqu'elle perd un peu de pouvoir, vous en prenez.
Oui.
Et donc,
oui,
vous la contrôlez plus. Et lorsqu'elle est moins jalouse, vous l'êtes plus jaloux.
Exactement ça, c'est vrai.
Voilà. Il y a un phénomène de balançoire, de balancelle, si vous voulez, qui fait que ça monte et ça descend de part et d'autre. C'est pour ça que, le problème du couple est un problème d'équilibre. Comme toutes les balances, les deux plateaux soient à peu près au même niveau, soient en équilibre. Sans quoi, le couple, en quelque sorte, est menacé.
En fait, c'est vrai que ça a été un mal pour un bien, parce qu'aujourd'hui...
Cet éloignement, visiblement, a transformé un peu les choses, oui.
Ça vous a permis
de réaliser, en quelque sorte, que le fait de ne pas se contrôler du tout, puisque vous étiez séparés, finalement, était à la fois, évidemment, difficile, parce que vous étiez séparés, mais à la fois très agréable, et donc
il s'est peut-être passé quelque chose d'autre aussi, Fred, en vous séparant, vous vous êtes rendu compte au fond que vous teniez énormément à elle, du coup vous êtes devenu un petit peu plus dépendant, et donc vous avez eu besoin de reprendre un petit peu le pouvoir, et elle, voyant à quel point vous êtes finalement accroché, elle a perdu un petit peu cette peur de vous perdre. Enfin, donc c'est là où vous avez raison, Jean-Michel, ça s'est un petit peu inversé.
Voilà.
Parce que chacun a pris conscience d'autre chose.
Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout le même couple qu'on était avant, quoi, en fait. Hein.
Ce qui prouve bien une chose que je répète depuis des années, à savoir que ce qui est important, c'est pas l'un ou l'autre, c'est la relation qui s'établit entre les deux. En d'autres termes, c'est l'angle dans lequel bascule la balance.
C'est vrai.
Et fatalement, vous savez, on voit ça même dans les maladies, il y a certaines maladies psychiatriques dont j'ai eu l'expérience pendant tout mon exercice, c'est que quand l'homme va, l'un va mieux, l'autre va plus mal, et inversement.
C'est vrai.
Et c'est très très fréquent.
Bah écoutez, veillez à ce que les deux plateaux de la balance s'équilibrent, Fred, vous êtes sur la bonne voie.
On va faire le maximum pour que...
Vous savez, plus vous tous les deux, vous serez conscients de ce mécanisme de balance qui monte et qui descend, et plus vous arriverez à le maîtriser. Parce qu'en fait, la seule façon de maîtriser les mécanismes dont nous sommes les victimes et les jouets, c'est de les comprendre.
Oui, tout à fait, oui, exactement.
Bah vous avez eu raison de nous appeler, Fred, ça vous aidera à mieux comprendre encore votre relation, qui visiblement est une belle relation.
Oui, franchement, là, on vit une autre histoire et en fait, moi, je me suis retrouvé et je suis retombé amoureux de ma compagne.
Formidable.
En même temps, voilà.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie. N'oubliez pas, RMC s'écoute aussi sur le câble et le satellite.
Et un petit tour du côté de rmc.fr avec ce mail de Paul. Cela fait 5 ans que je suis séparée de mon ancienne petite amie. Je n'arrive toujours pas à passer le cap. Je suis toujours profondément amoureux. J'aimerais avoir votre avis, vos conseils pour arriver à dépasser tout ça et à sortir de ce long tunnel. Merci pour votre aide. Alors, Paul, toujours amoureux ou dépressif?
En tout cas, dépendant. Ça, c'est évident.
Ah oui, très juste. Oui.
En tout cas, très, très dépendant. Ça semble être une, en tout cas, dans ce qui est verbalisé, une vraie dépendance affective. Vraisemblablement, la crainte de passer aussi à une autre relation. La relation était peut-être parfaite, mais en tout cas, là, manifestement, le fait de pas pouvoir décrocher, c'est pour ça que j'en employé le terme de dépendance, signe quand même aussi vraisemblablement la crainte de passer à autre chose.
Mmh. Alors, on ne sait pas, c'est curieux d'ailleurs, on ne sait pas s'il a été quitté ou s'il a... Enfin, parce qu'il dit « je me suis séparé et c'est là où il y a une ambiguïté qui semble intéressante à analyser aussi.
Voilà, il y a des gens qui, sur un coup de tête, vont quitter quelqu'un et ne vont jamais s'en remettre, curieusement, justement quand l'autre, lui, a réussi à passer à autre chose. Et souvent, c'est encore plus douloureux. C'est-à-dire que quand, en fait, on a plaqué la personne et qu'on s'aperçoit au bout de 2, 3, 4 ans qu'on est encore amoureux, c'est encore plus difficile et plus culpabilisant.
On ne sait pas non plus s'il a déjà eu quand même des relations sexuelles. Ce qu'on pourrait encore au moins lui conseiller, c'est au moins d'essayer d'avoir des relations sexuelles, même si c'est même s'il n'est pas amoureux, même si, mais juste pour se remettre le pied à l'étrier, comme on dit.
Oui, et puis ne plus faire de cette relation le centre de sa vie, une obsession, quoi. Je veux dire, c'est effectivement d'avoir essayé d'avoir d'autres relations, mais aussi développer tout le reste de sa vie sociale, affective, culturelle, et recentrer la relation à sa vraie place. C'est-à-dire qu'elle doit être intégrée à d'autres, et pas centrale.
Donc il faut, Paul, que vous repreniez le goût de vivre, dans tous les sens du terme, de manière à sortir de cette dépression amoureuse.
RMC. La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye.
Tout de suite, je vous propose de frémir de plaisir puisque c'est de jouissance dont nous allons parler avec Sylvain Mimoun, Lune et Caroline.
Bonjour Brigitte, bonjour à Sylvain.
Bonjour.
Bonjour, moi je voulais apporter mon témoignage. Donc mon partenaire avec qui j'ai une sexualité très très épanouie, j'ai 50 ans, c'était un garçon, alors je... Pour parler vulgairement, mais même sans être vulgaire, en fait. Il suffit qu'ils mettent les mains dans la prise et les doigts dans la prise et je vole, quoi. C'est quelqu'un,
c'est magique. Non, c'est joli, c'est pas...
C'est magique et c'est vrai que je ne redescends pas mon petit nuage. Et c'est vrai qu'on a une sexualité, je ne sens absolument pas ni le plaisir ni l'orgasme. Voilà, je me laisse complètement aller. Bon, il est vrai aussi que quand ça se trouve chez moi et que j'ai mes enfants à proximité, je me mets un petit peu en sourdine, mais ça me coûte énormément, donc je mords l'oreiller, mais mon compagnon me fait savoir que quand vraiment il sent que je suis, comment dire, quand je suis vraiment...
Vous allez jouir, oui.
Oui, voilà. Lui, il a constaté que mon clitoris gonflait énormément, grossissait et donc roulait davantage sous son doigt. Donc est-ce que... Alors moi, je ne le perçois peut-être pas, mais en tous les cas, ça me fait défait. Mais lui perçoit un durcissement de mon clitoris et...
Il est en érection.
Il se contracte, voilà. Il se contracte, alors, en fait, comme une érection. C'est une érection, d'ailleurs, du clitoris. D'accord. Et alors, vous n'avez pas besoin de le sentir se contracter. Ce qui compte, c'est que vous sentiez que ça vous fait du bien. C'est ce que, visiblement, vous sentez.
Oui, tout à fait. Mais mon ami me signale que c'est ça. Surtout chez lui qui révèle. Puis de toute façon, même moi, je veux dire que moi, je ne sens pas. Je suis vraiment... c'est ça.
Bon, mais c'est que lui vous caresse bien au niveau du clitoris. Oui. Et donc, il sent bien la contraction au niveau du clitoris. Si elle avait les doigts dans le vagin, il sentirait aussi une contraction au niveau des muscles
périvaginaux,
etc. Voilà.
Mais on n'a pas du tout abordé ce sujet.
De toute façon, vous avez raison, Caroline. Au moment de la jouissance, tout se gorge de sang aussi chez la femme.
Exactement.
Hein. Et quand on parle, quand je parlais d'érection, c'est vrai qu'on parle de l'érection du clitoris. Et le fait qu'il touche votre clitoris, ça facilite d'autant plus
la montée du plaisir encore plus forte.
Ah oui, c'est vraiment. Enfin moi, ça fait 5 ans que cette liaison dure et vraiment, à chaque fois, je me dis mais ça va s'arrêter quand? Parce que j'ai 50 ans et que je me dis mais c'est trop chouette quoi. J'ai l'impression de vivre ça que maintenant.
C'est le début de la jeunesse, c'est bien.
Ben, oui, c'est ce que je me dis également. Donc je vais pas me priver de ça, mais c'est vrai que c'est voilà, c'était.
Mais vous savez, Caroline, j'en profite pour le signaler. Vous confirmer l'hypothèse que beaucoup de femmes après 45 ans, 50 ans, si elles sont vraiment libérées, peuvent découvrir beaucoup plus de plaisir qu'avant. Alors évidemment, si elles sont coincées, c'est rare que ça se décoince, mais...
J'étais coincée, je vous promets.
Il y a des femmes qui deviennent femmes fontaines après 50 ans.
Absolument.
Oui, je pense que j'ai dû avoir l'occasion de l'être une fois, sauf que mon partenaire s'est endormi à côté de moi. Et j'ai senti très seule. Bon, ça c'était l'anecdote. Mais voilà, c'est vrai que j'ai une sexualité qui est beaucoup plus épanouie maintenant qu'après 17 ans de mariage où j'ai cru que j'étais même frigide pour dire voilà. Donc là je pense que j'ai lâché les vannes et je m'éclate depuis 5 ans, c'est que du bonheur.
Et profitez-en bien. Bravo. Et rassurez-vous, il n'y a aucune raison que ça change.
Voilà. Bon,
et même en changeant de partenaire.
Bah pourquoi, maintenant que vous avez lâché, ouvert les vannes, comme vous dites, elles sont ouvertes. Hein.
C'est vous qui avez changé, c'est pas votre partenaire. Et donc, si vous allez avec quelqu'un d'autre avec qui vous êtes bien, parce que la vraie difficulté de changer de partenaire, c'est qu'on n'emmène pas tout avec soi. On emmène sa tête et sa tête ne s'adapte pas à tout le monde.
Oui, d'accord.
Voilà, alors si vous choisissez un autre partenaire qui est un homme qui connaît les femmes, tout ira bien. Oui. Si vous choisissez un homme qui n'y connaît rien, c'est vrai que ça sera plus compliqué. Hein.
Et il faut que vous soyez bien avec lui, c'est ça la condition sine qua non, mais ça c'est pas sur commande.
Il y a quand même une alchimie
amoureuse.
On le sent bien. Et c'est surprenant parce que cette personne, notre sexualité est très très épanouie, mais je n'y engage pas de sentiments amoureux. Donc c'est pour ça que je pose la question de savoir si ça se passera également pareil, plus ou moins avec un autre partenaire, parce que voilà,
Et pourquoi vous n'avez pas de sentiments amoureux pour lui? C'est parce que
j'ai des sentiments, mais je ne suis pas amoureuse.
Et il faudrait juste analyser si c'est parce que vous ne voulez pas vous engager complètement, ou si c'est parce que il y a des choses chez lui qui ne correspondent pas du tout.
Voilà,
Oui. Bon, mais c'est peut-être pas par hasard non plus, parce que quand on a une jouissance totale avec un homme, si en plus on est totalement amoureuse, on se met un peu en danger en quelque sorte.
On a l'impression qu'on se fragilise.
Oui, peut-être. Alors que là, je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à gagner, puisque je n'investis pas de
sentiments. Il n'y a que du bénéfice à gagner, quoi.
Oui, voilà, c'est vrai. Moi, je pense comme ça pour moi-même, oui, tout à fait.
Et lui, il le vit bien, comme ça?
Ah non, pas vraiment. On ne peut pas dire non. Je pense que pour lui, c'est difficile, parce qu'il ne comprend pas, puisque ça va si bien sur ce plan-là, pourquoi ça ne pourrait pas aller sur le reste? Ben oui, mais ça, après, ça m'appartient, mais en même temps, je ne peux pas non plus expliquer. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres paramètres qui font que je n'envisage pas d'avenir avec personne, mais le désengagement, en tous les cas, me permet de me laisser peut-être davantage aller que si je me sentais investie, je ne sais pas, affectivement.
Ça fait quand même 5 ans que vous êtes ensemble.
Oui, tout à fait. Donc, c'est pas un plan cul, comme dirait vulgairement certaines personnes. C'est pas ça du tout. C'est magique, voilà, c'est ça. Et c'est épidermique. Je veux dire, c'est quelqu'un, il pose la main sur moi, en dehors même de la sexualité. Mais il y a quelque chose de très, très.
Il vous allume, comme on dit.
Complètement. Et alors, il m'émerveille, hein.
Mais là, ce serait quand même intéressant. Mais encore une fois, vous n'êtes pas la seule, hein. Beaucoup de femmes clivent la sexualité et les sentiments.
De plus en plus, j'ai l'impression. De plus en plus. Enfin, classiquement, les femmes ne clivaient pas. Maintenant, elles peuvent commencer à cliver. Et c'est vrai que si vous en avez conscience, l'intérêt, selon moi, d'en avoir conscience, c'est de pouvoir jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire que vous pouvez amplifier d'un côté comme de l'autre comment être plus amoureux, comment être plus jouisseur, comment ou jouissive, etc. Et plus vous arriverez à jouer sur ces deux terrains, plus les choses se passeront bien. Moi, selon moi, habituellement, si on n'a pas peur d'être amoureux, plus on est amoureux, plus on jouit fort.
D'accord. Alors que moi, vous voyez, à l'inverse, amoureuse, éperdument amoureuse de mon mari, ma libido était complètement anéantie.
Mais je n'avais pas de libido. Mais parce que
c'est encore autre chose. Mais
parce
c'est
que
vrai.
Vous aviez peur de ce qu'il aurait pu penser de vous si vous vous éclatiez. Donc, mais donc, ça serait intéressant que vous travailliez un petit peu là-dessus pour arriver à débloquer peut-être l'inhibition que vous avez de vous investir plus émotionnellement avec ce partenaire.
Oui, peut-être.
Parce qu'au fond, vous avez acquis une maturité féminine, vous êtes certainement beaucoup mieux dans votre peau, et donc plus à même d'être vous-même à chaque instant, quoi.
Ah oui, parfaitement, tout à fait, tout à fait. Enfin voilà, en tous les cas, non, la simulation, pour moi, aucun intérêt, et vraiment que du bonheur, que d'être authentique, et ben même si ça en passe par le bruit, moi, comme je disais tout à l'heure, j'essaie de me contenir quand il y a, une personne autour, mes enfants en l'occurrence, bon ben je mords un peu plus fort l'oreiller, mais c'est vrai que c'est, voilà, quand je sens que, il y aurait tellement de choses qui sortiraient que c'est fou, quoi. Voilà, donc, je ne simule pas.
Bah écoutez, merci de votre témoignage. Qui va permettre aussi de comprendre que ça ne veut pas dire qu'une femme qui crie, ne jouit pas. On va y arriver. Merci Luna, merci beaucoup.
De rien, au revoir. Au revoir.
Bonjour Philippe.
Ah oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, bonjour. Moi, si j'ai appelé, c'est que je voulais apporter mon témoignage qui, je pense, va laisser un peu d'espoir à tous les gens qui se sont retrouvés un jour dans ma situation. Et Dieu sait si je pense, même si Dieu n'a rien à voir là-dedans, Dieu sait si je pense qu'ils doivent être nombreux.
Oui, oui, allez-y.
Alors, un témoignage sur les bienfaits du dialogue dans le couple, d'une part, et les bienfaits d'une psychothérapie pour les gens qui sont même persuadés d'en avoir absolument pas besoin. Alors, je vous laisse le tableau en deux mots avec ma couple. Avec ma compagne, on est quinquagénaires tous les deux. Mmh. Vie parfaitement réussie, des enfants grands qui réussissent leurs études, enfin tout va bien, portrait du couple idéal pour nos amis, notre famille. Et pour nous aussi. On était heureux, c'est ce qu'on pensait. Il y a 2 ans, je change de travail, toujours dans la même entreprise, mais je change de lieu de travail, et je me retrouve dans mon bureau avec une jeune femme, 30 ans, 20 ans de moins que moi. Mmh. Et se noue une relation, un coup de foudre amical, on va dire.
D'accord, une bonne entente immédiate, quoi.
Une bonne entente, une super bonne entente immédiate. Mmh. Alors, pour moi, ce n'était qu'amical, pour elle aussi. Enfin, moi, je voulais surtout m'en persuader.
Oui, oui, mais moi, je sais d'avance qu'il a, il faut se dire, méfiance.
Méfiance, oui, méfiance. Et je m'en ouvre aussi à ma femme, que j'ai fait une rencontre, que cette jeune femme est très agréable, qu'on s'entend très bien, qu'on passe beaucoup de temps à discuter tous les deux, des heures de discussion.
Et votre femme, elle a senti le danger ou pas du tout?
Oh, à mon avis, elle a dû le sentir tout de suite.
Ouais, c'est pas sûr, hein, parce que vous aviez l'air tout à fait sincère, donc pas sûr qu'elle l'ait senti.
Mais c'est pas que j'avais l'air, c'est que j'étais totalement sincère et totalement sûr de moi. Mmh. Sauf un matin, cette jeune femme, j'arrive de bonne heure au boulot, et me dit « Philippe, il faudrait que je te parle.
Ouais. » Ah.
Et on commence une discussion où elle me dit « Écoute, j'ai rencontré quelqu'un. » Et là, moi, j'ai ressenti un énorme coup de poignard dans le dos. Elle dit « C'est pas bon, ça. Oh là, ça, c'est pas bon. »
Ah oui, c'est drôle.
C'est là que je me suis rendu compte, pour moi, ce n'était pas qu'amical. Alors, s'ensuit une période où on continue à parler énormément, des heures de discussion, des petits repas au resto.
Mais donc, elle avait vraiment rencontré quelqu'un, quoi.
Elle avait vraiment rencontré quelqu'un. Elle était dans une situation de couple assez compliquée, un petit garçon, elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Et c'est là que moi, je me suis aperçu que mes sentiments n'étaient pas uniquement amicaux.
Vous êtes senti jaloux, quoi.
Voilà. Mmh. Mais je ne voulais surtout pas ça, moi. Je ne voulais pas tomber amoureux. Je ne cherchais rien du tout. J'étais très bien dans mon couple. C'était pas du tout ce que je cherchais. Et là, on est suivi une période où on a continué à se voir. On était dans le même bureau, à discuter énormément. Et plus ça allait, plus je souffrais énormément. Dès qu'elle sortait du bureau, j'étais mal. Quand elle rentrait dans le bureau, j'étais bien. Et je lui disais, tout en lui certifiant que j'étais absolument pas amoureux d'elle. C'est une discussion qu'on avait évoquée ensemble. Et on s'était dit, si un jour, il y a un de nous deux qui tombe amoureux, la seule solution, c'est de couper totalement les ponts. Mm-hmm. Donc ça a duré environ 2 mois. Et au bout de 2 mois, j'étais obligé de lui dire quand même ce que je ressentais. Et elle a respecté totalement ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire qu'elle a totalement coupé les ponts.
D'accord,
Donc derrière, souffrance terrible.
Bien sûr, oui, oui.
J'ai essayé de la relancer plusieurs fois. Impossible, elle refusait totalement le dialogue. En fait, elle a cru que je l'avais trompée, que je l'avais trompée dans le sens où elle me dit, la personne à qui je parlais, je ne suis pas sûr que c'est celle que j'avais en face de moi.
Oui,
alors que j'avais beau m'y certifier que moi, c'était au départ, c'était pas ça. D'ailleurs, mon inconscient ou subconscient, je sais pas lequel des deux, se débattait énormément puisqu'il m'envoyait des signaux, m'envoyait des rêves par lesquels non, j'étais pas amoureux, j'avais fait une rencontre qui me rappelait quelqu'un que j'avais perdu dans ma vie, etc. Quelque chose de très très dur à vivre. Donc derrière ça, il s'est passé quoi? Ben, j'ai continué à en parler à ma femme, mais je souffrais de plus en plus.
Mais vous continuez à parler à votre femme de quoi? De cette formidable amitié que vous aviez créée avec cette femme?
Voilà, c'est ça.
Oui, donc vous continuez. Et là, vous étiez en train de mentir à votre femme, puisque vous saviez que vous étiez amoureux.
Oui, enfin, je voulais toujours pas me l'avouer. C'est ça. Mais enfin, à un moment, ma femme a mis les pieds dans le plat, elle me l'a demandé.
Bien sûr.
Et là, je me suis écroulé, j'ai dit oui.
D'accord.
Oui, je suis tout amoureux. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça dans un couple qui a 50 ans? Des heures de discussion sur des choses qu'on n'avait jamais évoquées avant, sur l'avenir d'un couple, sur la tromperie, sur les sentiments, sur ce que veut un couple à 50 ans, qu'est-ce qu'il veut perdre sa vie, enfin, tes enfants sont grands. C'était une période géniale. Bon, elle m'a accompagné dans cette période très très dure, puisque c'était carrément une dépression que j'ai fait, dont je ne voulais pas entendre parler non plus. C'est une dépression qui ne disait pas son nom. Donc, ce dialogue a été hyper bénéfique et j'ai décidé de suivre une psychothérapie derrière.
Je suis pas tout à fait d'accord avec ce terme de dépression. Hein. Je pense que le sentiment amoureux, quand il n'est pas accompli, hein, donc en l'occurrence là, c'était pas réciproque, donc c'est une grande tristesse. De là à parler de dépression, je suis pas sûre. Hein.
Je sais pas, parce que quand on n'a plus aucune envie, quand on n'a plus envie de manger, quand on perd 7 kilos, je pense qu'on est quand même pas loin de la dépression.
Oui, je sais pas, parce que quand on a perdu un être cher, on peut aussi perdre 7 kilos et on n'est pas forcément dépressif, on est simplement très malheureux. Enfin, la souffrance psychologique, elle est, en l'occurrence, c'était ça dont vous souffriez. Alors, je sais pas, hein, peut-être que vous étiez un peu dépressif, hein, mais je crois qu'il faut faire attention de pas forcément tout de suite mettre le terme dépression sur une grande douleur qui se comprend, hein, au fond.
Donc on a continué à vivre comme ça avec ma femme, on a passé des moments merveilleux, des soirées entières à discuter de choses dont on n'avait jamais parlé. C'est pour ça que je parlais du dialogue dans le couple qui un jour peut arriver. On passait des très bons moments ensemble, mais on n'avait jamais eu de discussion profonde sur nos envies, nos désirs, nos choix de vie. Mm-hmm. Et ça, on a réussi à ouvrir la discussion là-dessus.
Mais vous savez, Philippe, votre témoignage qui est superbe, en plus vous racontez très très bien, hein, il montre juste une chose que je ne cesse de dire, hein, on élabore les choses, on évolue, on se transforme toujours, toujours dans le chaos. Quand on est tout va bien, en fait on n'avance pas, on profite, hein, c'est bien, hein, quand tout va bien. Mais c'est toujours malheureusement, c'est toujours les accidents, hein. Quand je dis accident, c'est pas un accident forcément physique, toujours les accidents qui nous font nous transformer. Et merci beaucoup pour ce très joli témoignage. Et puis je suis ravie que ça a été une belle transformation. Mais vous vous en êtes donné aussi les moyens, c'est ça qu'il faut dire. Merci Philippe.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.